En habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve David Mascret.
Jean-Didier Vincent, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, pour cette émission En habit vert, nous aurons le plaisir de décrypter et de parcourir ensemble une partie de votre œuvre et surtout de votre trajectoire pour vous connaître un petit peu davantage et aider nos auditeurs à découvrir un peu plus votre œuvre. Cher Jean-Didier Vincent, vous êtes d'abord un neurobiologiste. Peut-on vous demander ce qui vous a attiré vers cette discipline ?
Oh, comme d'habitude, le hasard. Je ne me destinais pas à être un médecin. J'ai fait la médecine par délicatesse, sûrement pas. Mais je rêvais d'une carrière littéraire, d'une carrière de normalien. Puis bon, mes parents ayant eu peut-être quelques difficultés dans l'existence, c'était ce qu'on pensait tout au moins à l'époque, que la médecine m'assurerait une subsistance honorable, alors qu'il n'était pas sûr que j'ai les capacités de réussir dans le monde que je choisissais. Donc, ce en quoi ils avaient tout à fait tort, mais je leur ai essayé de leur prouver le contraire en acceptant de faire médecine. Médecine qui a failli être militaire, mais là encore, j'ai échappé au diktat parental. Et quand on est interne, quand on est médecin, on ne voit pas, bien qu'on en jouisse, tout ce qu'il y a de chaleureux, de proche de la vie dans ce métier. Ce métier, je l'ai aimé par défaut et finalement, il m'a toujours suivi et je crois que fondamentalement, je suis devenu médecin et je le reste. Donc, je veux dire que les réticences que j'avais à mon départ, peut-être aujourd'hui, je les regrette. J'aurais voulu être plus médecin que je ne l'ai été, mais en tout cas, je l'ai été jusqu'au bout et ça aide beaucoup pour faire de la recherche dans le domaine de la biologie. Mais il m'a semblé effectivement que d'une part, la psychiatrie bénéficiait d'un prestige intellectuel dans peut-être l'urologie ou la stomatologie auxquelles on avait pensé me vouer à un moment donné. Pour des raisons de convenance familiale, me convenait mieux. C'est vrai que la psychiatrie à l'époque comptait beaucoup de beaux esprits, c'était à la fin des années 50. On était séduits par les constructions de l'esprit autour de la folie. Et donc je suis devenu neuropsychiatre, parce qu'à l'époque on était neuropsychiatre, c'est-à-dire à la fois des cliniciens inscrits dans le soma, des neurologues
dans le corps.
Et puis aussi des gens qui s'attaquaient aux problèmes de l'esprit. Alors je suis devenu neuropsychiatre, j'ai une bonne formation de neurologue et une formation de psychiatre. J'ai exercé un peu la psychiatrie en remplacement dans les cliniques ou à l'hôpital quand j'étais chef de clinique, mais dans le même temps, très vite, je suis tombé sous la coupe d'un biologiste excentrique qui s'appelait Jacques Faure, qui était quelqu'un qui théorisait sur le stress, sur les émotions, sur la place des hormones, dans l'épilepsie, mais aussi dans les troubles du comportement. Il était très atypique à l'époque et il m'a séduit. Et là, je suis devenu son élève. J'ai très vite fait de la recherche à côté de mes activités cliniques pour ne devenir après que pratiquement chercheur avec, quand on est devenu bi-appartenant, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire avec une fonction hospitalière universitaire, de la recherche appliquée. J'étais le premier à avoir en France, après mon maître Jouvet, un laboratoire de sommeil, d'exploration des troubles du sommeil, du EEG, de l'échographie du cerveau, etc. Si, je veux dire, c'était mon côté clinicien, mais qui est toujours passé au deuxième rang, derrière mon activité de chercheur. Et sous l'impulsion de Jacques Faure, je suis devenu un des fondateurs de ce qu'on a appelé la neuroendocrinologie, c'est-à-dire ce qui étudie les relations entre le cerveau et les glandes, toutes ces choses qui sont loin de l'esprit, loin des désordres psychiatriques classiques et qui ont trait à l'influence des glandes sexuelles, des glandes comme l'hypophyse, comme les glandes surrénales, le stress, l'hypothalamus. Je suis allé directement dans les caves de la psyché humaine pour y exercer mes activités. Donc je peux me considérer comme un des fondateurs de la neuroendocrinologie au plan international. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a attiré plus particulièrement vers le cerveau, vers cet organe très particulier de l'être humain? À partir de quand ce choix s'est-il opéré en vous?
Mais c'est le romantisme, c'est le romantisme de la jeunesse. C'est quand même plus fascinant que de travailler sur le cerveau, que de travailler sur le foie, ou sur la prostate, ou sur les dents. Donc c'est vrai que c'était mes prétentions exorbitantes à la culture et à l'intelligence me poussaient à aller vers cet organe étrange du corps qui est censé sécréter l'intelligence, c'est normal. Donc c'est par prétention que j'ai travaillé sur le cerveau, par prétention, par présomption intellectuelle, c'est pas par modestie.
Est-ce que l'on peut dire qu'à cette époque, vous aviez l'image, peut-être un petit peu réductionniste, du cerveau sécrétant l'intelligence comme le foie sécrète la bile?
Non, Cabanis, oui. Non, j'ai dû... dans ma génération, nous autres neuropsychiatres, c'était avant 68, on avait à se défendre si on voulait rester du côté de la pensée sécrétée par le cerveau, pour prendre un excès réductionniste, à l'abri des tentations d'un psychanalyste. Les psychanalystes, c'était la dernière révolte du sujet, dans le concert neuro-quelque chose, c'est-à-dire le cerveau livré aux actes réflexes, au pavlovisme, avec...
Au behaviorisme.
Le behaviorisme, c'est pratiquement une négation du cerveau. On étudiait les entrées, on étudiait les sorties, et tout, dans le fond, c'était le cerveau machine
notre
à répondre.
N'était pas étudié,
non, ce qui constituait la subjectivité, l'intériorité de l'être. Et l'être, il y avait un gros divorce. Alors, les psychanalystes donnaient l'impression de s'intéresser à la subjectivité, à l'esprit, aux maux de l'esprit, aux troubles de l'esprit. Et beaucoup de neuropsychiatres qui avaient choisi plutôt le versant psychiatrique allaient se faire analyser à l'époque. On était en grande époque du lacanisme, quittaient Bordeaux où j'étais pour Paris et prenaient le train tous les lundis matins et allaient voir leurs analystes, faisaient leurs contrôles, etc. Et ils rentraient le mercredi pour regagner les services hospitaliers. Mais moi, j'allais à Paris dans les années 65 pour enfoncer des électrodes dans des cerveaux de singes. Ouais. C'est pour ça que quand j'allais prendre mon sandwich depuis la Salpêtrière au Jardin des Plantes, j'allais faire mon analyse avec une très vieille guenon chimpanzé. Je parlais, je disais que dans le fond, tant qu'avoir un analyste silencieux, autant prendre une chimpanzé qu'une vieille mère juive qui sent la poudre de riz. Donc j'étais là dans une attitude provocatrice et en même temps, on se demandait si j'étais analysé ou pas, parce que j'étais quand même fasciné par l'analyse. J'ai toujours été fasciné par Freud, et donc... tout ce qui est de l'ordre des mécanismes de défense, etc. On m'a tout sorti, je dois dire, pour expliquer cette réticence. J'avais mes raisons de ne pas exposer ma psyché à un autre. Mm-hmm. Elle me paraissait terrible, ma psyché. Aujourd'hui, je sais qu'elle était d'une banalité désespérante.
Une sorte de pudeur ou de...
Oh, c'était pas une pudeur, c'était de la honte et de la culpabilité qui venait bien plus loin que ça. J'ai toujours été derrière le sentiment d'être accablé de fautes et de culpabilité. Donc l'analyse m'aurait probablement aidé, mais elle m'aurait peut-être fait sombrer dans un intellectualisme pour lequel j'avais beaucoup de prédispositions, et grâce au ciel, les neurones m'ont ramené à la notion de réel. Et surtout les neurones et les glandes, ce que j'avais choisi, je dirais non pas la voie royale, mais au contraire, les chemins de traverse, les chemins vicinaux plutôt que les nationales.
Et qu'est-ce qui, précisément à cette époque, de grandes élaborations intellectuelles ou idéologiques, vous a davantage ancré dans cette démarche objective, très scientifique, que dans une démarche qui aurait été peut-être plus subjective, même si vous allez retrouver la subjectivité bien plus tard?
Oui, c'est le cours de mon histoire, c'est-à-dire que à faire des stimulations vaginales chez des lapines et découvrir le sommeil paradoxal de la lapine, par exemple, parce que c'est une espèce à ovulation provoquée, sous prétexte d'étudier à plus longue distance les épilepsies d'origine endocrinienne, les troubles du sommeil d'origine endocrinienne, voire l'influence que pouvaient avoir les glandes, les hormones sur le comportement de la femme et de l'homme, évidemment, je m'enfonçais dans l'animalité. Et quand je suis allé en Californie, c'est une double révolution. Je suis allé en 69, j'y suis resté 2 ans en Californie.
À un moment où les choses étaient tout à fait en activité d'un point de vue
de formation intellectuelle. J'ai suivi 68 déjà. Avec une certaine réticence, parce que étant moi-même un produit de la guerre d'Algérie, où j'avais milité du côté dans les rangs des opposants à au tenant de l'Algérie française, donc plutôt du côté des insoumis. Je me suis retrouvé là-bas aussi en pleine terre d'insoumis. Et en même temps, je suis arrivé avec mon costume trois pièces. J'avais un costume en sportex comme mon père, avec un très beau gilet, etc. Je faisais des cours aux étudiants de façon très convenable. Et
vous étiez
très...
à l'époque légèrement décalé ou...
Décalé quand je suis arrivé en Californie, oui, parce que là, on était, c'était l'époque du moratorium, la guerre du Vietnam. Enfin, je fréquentais couramment Angela Davis. J'avais des amis sur le campus qui étaient plus ou moins psychédéliques, quelque chose, etc. Et en même temps, là, j'ai commencé à travailler très sérieusement avec des bonnes techniques sur le singe éveillé, forçant des électrodes, travaillant en ce moment-là, découvrant la véritable localisation des ossements récepteurs, enfin, et toujours avec cette idée de se rapprocher des situations réelles, c'est-à-dire éviter toute cette neurophysiologie qui a été faite par des gens autour de Madame Albefessard en France et ses élèves directs, qui était une physiologie du chloralose, disait-on, parce que c'était sur les animaux anesthésiés qui n'avaient plus rien à voir avec la réalité.
Mais on ne tire pas dans une situation in vivo, en quelque
vivo,
sorte.
Voilà. Moi, j'étais préoccupé de voir ce qui pouvait se passer en direct du cerveau à l'homme et de l'homme à son milieu. Et voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé sur les mécanismes de la boisson, sur du sommeil, les différents comportements et désirants. Et j'aurais pu, après, quand je suis rentré à Bordeaux, en mettant au point des techniques de travail sur le singe, développer tout un courant de recherche qui a été ensuite développé par des gens comme Rawls en Angleterre, voire des neurones motivationnels, les neurones miroirs, tout ça. J'aurais pu faire cette carrière dans cette direction, et toujours avec mon espèce de goût de la réduction, de souci toujours d'être au ras du réel, de désamorcer la poésie,
défaire des mythes peut-être.
Ouais, je ne sais pas, mais j'ai quelque chose qui ne me pousse pas vers le assumer mon imaginaire. Et donc, j'ai viré pratiquement à l'in vitro. J'ai travaillé sur des modèles beaucoup plus simplifiés, sur des cultures de neurones. On a été le premier, parce que j'ai été au NIH en 79, à faire des cultures
donc, deuxième retour aux États-Unis.
Oui, faire des cultures de neurones, et là, faire des enregistrements intracellulaires à des microélectrodes sur des neurones qui étaient sortis du cerveau, donc de leur environnement normal, et d'enregistrer leurs réponses à des neurotransmetteurs qu'on injectait par des petites pipettes au contact de leur membrane. Vous voyez. On était à l'autre bout de ce qui faisait mon sens profond de ma vie. C'est pour ça que en 86, j'ai souhaité ne pas faire un livre sur cette pratique scientifique ou n'essayer de ne l'utiliser qu'à titre anecdotique, pouvoir écrire un livre théorique sur ce qu'était les passions de l'homme, comment on pouvait concilier ce que l'on savait de ce cerveau avec toutes ces contraintes, tous ces mécanismes à l'œuvre. Côté très réducteur de savoir qu'une hormone peut bouleverser un comportement, peut transformer un individu brillant en imbécile, peut déclencher chez des gens un comportement de violence, etc. Ou vous devez rendre amoureux alors que rien ne vous y prédispose, ni celle qui en est l'objet, tout simplement par le jeu d'hormones sur quelques neurones. Tout ça m'a fasciné. J'ai essayé de le théoriser avec le concept d'état central fluctuant notamment. Dans mon premier livre qui a été Biologie des patients. Oui. Ce qui fait qu'ensuite, j'ai eu une vie écartelée, mais comme a été toute ma vie, c'est-à-dire, je suis un être double, et si je n'utilise pas cette métaphore qui, après tout, est plutôt néoplatonicienne, qui n'est pas si ridicule du zodiaque, mais qui est une sorte d'accessoire dont on peut se parer quelquefois, je suis un gémeau, donc j'ai une véritable...
Janus bifrons.
Voilà. J'ai toujours cette duplicité qui quelquefois peut passer pour de la fourberie, d'autres fois pour peut-être
de la souplesse ou de l'intelligence.
Souplesse et de l'intelligence, vous avez.
Avant de venir effectivement à cette partie, j'allais dire, tout à fait intéressante de votre œuvre, qui commence avec Biologie des passions, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce parcours proprement scientifique, disons, c'est des années dures de recherche. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience américaine? Quelle différence avez-vous pu noter entre la formation à la recherche que vous aviez reçue en France, celle qui vous était dispensée aux États-Unis, et plus généralement, ce parcours lui-même?
C'est-à-dire que moi, j'ai réussi trop tôt. J'ai été professeur agrégé de médecine à 29 ans par les circonstances ou l'arrivisme, je n'en sais rien. Mais ça veut dire que très tôt, j'ai eu des responsabilités qui n'étaient pas de mon âge. Très tôt, j'ai eu confrontés des problèmes d'ego, de rivalité de conflits avec l'administration, d'achat de matériel, etc. Je veux dire que je n'ai jamais disposé de véritable liberté, sauf quand j'étais aux États-Unis où je me retrouvais dans une situation de post-doc ou une situation de chercheur libre qui me donnait une liberté d'esprit totale. Et dans cette sorte d'impunité, lieu privilégié que sont les campus américains, ou quand même quand on est un visiteur étranger, même si on est dans des labos où il y a une forte pression de patrons, choses comme ça. Moi qui étais déjà plutôt un patron en France.
Vous étiez plutôt choyé ?
Non, j'étais libre. Je veux dire, libre, je passais pour un esprit original, mais c'était parfaitement toléré, quoi. J'étais libre, mais libre comme l'air. En plus, j'avais quitté une famille avec déjà une famille nombreuse et je me suis retrouvé très libre. Je me suis, je dirais, au sens psychologique du mot, envoyé en l'air pendant plus d'un an. Voilà. Donc c'était une vraie révolution, en plus, dans cette Amérique-là qui ne ressemble pas plutôt
à celle
qu'on connaît aujourd'hui, mais qui en même temps avait quelque chose de sérieux dans cette approche de la liberté, les beatniks,
pouvoir de l'imaginaire.
Moi, j'ai connu deux générations d'Américains, les punks en 79, quand j'étais à Washington, où j'ai côtoyé ce genre de monde. Et puis là, c'était plutôt le psychédélique, la lutte contre la libération sexuelle. Il y avait des parties, il y avait des choses comme ça.
Oui, c'était inintéressant pour un neurobiologiste. C'est une expression un peu à la marge, en quelque sorte.
Oui, mais je ne vais pas dire que je vivais ça dans l'unité, que j'avais l'impression de prolonger ma vie scientifique quand j'allais rencontrer quelques collègues de UCLA. Dans des expériences qui étaient assez limites, quoi. Donc, avec Sterman, je vous ai cité quelques amis du côté des Black Panthers, où j'avais quelques amis noirs qui m'apprenaient plein de choses de la vie.
Un monde en pleine effervescence, disons.
Oui, oui, oui. Puis, on y croyait un peu. C'est tous ces gens qui étaient un peu des hippies, des choses. Les week-ends à San Francisco, qui étaient quand même, par rapport à Los Angeles, déjà une ville, une sorte d'Athènes par rapport à Rome, quoi. Donc là, j'ai frisé un petit peu le délire. Mais en même temps, ce qui m'a toujours sauvé, c'est ma gémellité, enfin ma double nature. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai fait un travail scientifique très sérieux et j'ai véritablement travaillé beaucoup d'obstination, beaucoup de persévérance et beaucoup d'obsession en plus, parce que la recherche à ceci, c'est que c'est vraiment une activité dont on devient très rapidement dépendant. Elle vous rend obsessionnel.
Est-ce qu'on peut parler d'addiction à la recherche ?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une activité à haut pouvoir addictif, c'est-à-dire que ça vous fait jouir, la recherche.
L'aspect positif, la jouissance.
Oui, mais c'est aussi la souffrance. Je veux dire que vous savez que ma théorie des processus opposants, la jouissance, la souffrance, ça va de pair. Et la recherche vous fait souffrir parce qu'elle vous fait jouir. Il y a un sentiment quand on progresse, quand on fait une observation formidable un jour, que ça vous fait bouillir les neurones, c'est absolument fabuleux. C'est un vrai, vrai plaisir et ça ne souffre pas de concessions. Enfin, je veux dire que c'est. Mais en même temps, si on a une sorte de décalage, si on a cette capacité à mener une double vie, les États-Unis, c'est un pays étonnant, quoi. Si on y va en se révoltant, en étant écœuré par tout ce qu'on voit, non, il faut. On comprend rien. Il faut vivre comme dans un roman, quoi. Là, on y va comme on prend un gros livre d'apprentissage, et puis on voit venir, on se laisse aller à faire des choses qu'on ne ferait jamais ailleurs. Aimer des gens, avoir des aventures, prendre des risques, enfin c'est une autre vie. Alors a priori c'est incompatible avec le métier de chercheur. Et pour beaucoup de chercheurs c'est une impossibilité. Moi j'ai transgressé, j'étais toujours, et c'est ma nature protestante peut-être qui fait que j'étais toujours entre la vertu et la transgression, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est fondamentalement cet espace de liberté initiale qui précisément vous a permis de à la fois vous épanouir et mener cette recherche tout à la fois de pointe et en même temps original quant à un certain nombre de ces thèmes?
Oui, je pense que je dois beaucoup à mon éducation protestante. J'ai été 6 ans interne dans un collège protestant et j'y ai appris le goût de la liberté, le goût de la, en même temps d'affronter les contraintes, parce que c'est quand même un milieu puritain avec des exigences morales qui sont supérieures à celles qu'on peut trouver dans un lycée d'État ou dans un lycée catholique. Les protestants sont à la fois les protestants, selon mon cœur, les gens de Sainte-Foy-la-Grande qui est la terre natale de grands anarchistes comme Élisée Reclus ou comme Broca, le père des localisations cérébrales, qui était quelque chose qui allait comme tous les dogmes chrétiens de l'époque. Et cette terre de liberté,
Broca et Élisée Reclus,
oui, tous ces grands protestants de la fin du 19e siècle qui ont beaucoup modifié la société. Élisée Reclus est fondateur du mouvement anarchiste, mais c'est aussi un homme d'une grande vertu, de grandes exigences morales, avec un amour de la terre. Il n'est pas pour rien l'inventeur de la géographie humaine.
Déjà cette forme de gémellité entre l'amour de la liberté et en même temps le sens de la discipline et de la vertu.
Son côté libertaire est presque une exigence morale chez lui. Et chez Broca, il y a aussi d'extraordinaires naïvetés. Alors si on est de mauvaise foi, on en fera un fondateur du fascisme parce qu'il a fondé l'anthropologie humaine, l'anthropologie. Et il a acheté par exemple un cimetière baste, alors on va vous dire pour avoir les crânes qui sont au musée de la science publique, mais 300 crânes, c'est parce qu'il voyait à partir du crâne une façon de distinguer entre différentes races.
Nous étions dans un contexte où fondé sur l'idée de phrénologie, d'examen extérieur.
Totalement différent. Mais en réalité, c'était un esprit profondément moral et profondément libre. Et tous ces gens de Sainte-Foy-la-Grande et ce collège où j'ai été élevé m'a appris la liberté, la tolérance, mais en même temps l'exigence. C'est-à-dire l'exigence vis-à-vis de soi, ce qui implique évidemment de tricher, parce qu'on ne peut pas être exigeant 24 heures sur 24, et dont le corollaire est la culpabilité. C'est-à-dire toujours l'impression que l'on trahit quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de l'humain. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas... En réalité, on est libertaire par vertu et coupable par faiblesse.
Oui, on retrouve un peu nécessité. Cet adage grec qui faisait en quelque sorte le cœur de l'équilibre antique, le rien de trop, medeinagan, peut-être ne pas exiger trop de manière à ne pas tomber de trop.
Ça, malheureusement pour moi, c'est peut-être pas un des traits protestants les plus marqués, les protestants.
Qui veut faire manger la bête, disait Pascal.
Tout ça, c'est ma famille, je veux dire. Pascal, Montaigne, j'ai été élevé à l'ombre de son château. Mon père possédait les bois du château de Montaigne. Pendant la guerre, ça permettait, comme c'était sur la ligne de démarcation, de faire passer pas mal de gens en ligne, en zone libre. Mais Montaigne, c'est ça aussi, c'est un sentiment profond de la faiblesse humaine et en même temps un désir formidable de vie et d'équilibrer autour d'une zone de flottaison à peu près confortable, acceptable tout au moins, toutes les exigences contradictoires de la vie. Les protestants vous apprennent ça. Ils vous apprennent à faire fortune, par exemple, ce que les catholiques font semblant d'ignorer. Ils vous apprennent à être vertueux dans votre travail. Et en même temps, ils sont quand même les premiers à dénoncer l'esclavage. Enfin, je veux dire qu'il
y a un rapport complexe, effectivement.
Il y a un rapport complexe qu'on trouve dans cet environnement culturel qui a été le mien dans mon adolescence, qui a fait l'individu que je suis. Quoi. Je rends grâce à mes maîtres de l'époque. J'avais 12 ans quand je lisais Gide. Et je veux dire que c'est... Pour moi, c'est peut-être un personnage qui paraîtra assez mauvais à beaucoup d'individus. En réalité, Gide est le modèle même de ces individus poursuivis par la culpabilité, en même temps jouisseurs et qui sont toujours en contradiction avec...
Un des grands protestants de l'histoire de France, effectivement.
Oui,
en tout cas, qui a marqué le paysage intellectuel parmi beaucoup d'autres.
Il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que donc je suis très... Bien que étant baptisé catholique, mais ayant fait ma première communion protestante après l'école du dimanche.
Gémellité.
Je suis un être mixte. Et vis-à-vis de la science, je dirais que j'ai un peu les mêmes rapports. Et ça m'empêche quelquefois de me prendre pour un grand savant. Et vous savez qu'une des exigences pour être un grand savant, c'est d'en être d'abord convaincu soi-même pour en convaincre les autres. C'est les conditions d'obtention de toute grande reconnaissance en science. Finalement, les grands scientifiques, tout au moins ceux qui ont eu la reconnaissance de leur vivant, ne sont pas toujours des personnages très sympathiques.
Oui, en même temps, un certain nombre de très grands scientifiques sont aussi des hommes de doute, des hommes de modestie, qui savent quelles sont les limites de leur pouvoir de connaître.
Mais ceux-là n'ont jamais su qu'ils étaient de grands scientifiques.
Oui, parfois c'est la postérité qui le leur montre, en quelque sorte.
Souvent, oui.
Si l'on devait faire un récapitulatif bref de vos découvertes, que diriez-vous finalement de... Qu'est-ce qui, brièvement, a été l'apport central de cette discipline que vous avez contribué à fonder, la neuroendocrinologie?
Oh, c'est très difficile de résumer l'œuvre d'une vie, parce que j'ai pas de découverte majeure, si ce n'est dans le domaine de la sensibilité du cerveau aux variations des humeurs, des hormones. J'ai donc découvert vraiment ce qui en était des osmorécepteurs, des variations de la pression osmotique, et comment le cerveau était informé des fluctuations du corps, de l'état du corps et notamment de l'état des hormones. Et j'ai été le premier à montrer que certaines cellules de glandes réagissaient exactement comme des neurones, et que à l'intérieur du cerveau, il y avait des régions qui se comportaient plus comme une glande. Le cerveau glande, si vous voulez, ça a été pendant 12 ans de ma vie, ou 14 ans de ma vie, le leitmotiv de mes recherches, et montrer comment les comportements sont soumis, justement, à partir de câblages cérébraux, aux fluctuations de l'état hormonal du milieu. Donc, j'ai développé ce concept de cerveau flou par rapport à un cerveau câblé, raisonnable, réagissant au stimulus de l'environnement par des réponses adaptées. J'ai montré tout ce qu'il y avait dans ce cerveau flou, d'incertain, dans ce système nerveux central. Ce que j'ai théorisé au niveau de biologie des patients, avec l'idée d'état central fluctuant. Et qui finalement aura une postérité plus importante que je n'ai bien voulu le penser, quand on voudra accepter ce concept comme concept unificateur pour la façon d'approcher le cerveau. C'est pour ça qu'il me reste encore un livre à écrire.
Et précisément, cette notion d'état central fluctuant, pouvez-vous nous la préciser un peu? En quoi est-ce cette sorte de flou constitutif ou initial permet-il de...
C'est sortir le cerveau de son statut de citadelle assiégée, avec ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Rien n'y pénètre qui ne soit filtré, soit par les nerfs, soit par les enveloppes, soit par la circulation.
C'est une approche en termes de codage-décodage.
Oui, c'est l'une des approches codage-décodage, mais c'est aussi les hormones elles-mêmes, elles arrivent de la périphérie dans le cerveau après avoir été triées, si je puis dire. Et puis, ramener au contraire la notion d'un cerveau qui n'est que l'expression de la globalité du corps, de sa subjectivité, et qui est le lieu de la psyché. J'ai osé parler de l'âme, mais pas l'âme dans un sens spiritualiste. Je dis que la psyché, c'est ce qui relie le cerveau de l'un au cerveau de l'autre. C'est cet état qui fait que chez l'homme, ça se développe à un tel point qu'apparaît la notion de conscience de soi. Finalement, nous sommes une collectivité de cerveaux, et de cerveaux qui ne prennent leur existence et leur réalité que dans l'existence d'autres cerveaux et la connaissance de cette existence. Dans ce jeu de miroir, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle aujourd'hui les neurones miroirs.
Oui, vous avez des développements tout à fait passionnants sur cette question.
Qui font que finalement, je ne suis moi que parce que je le suis à travers toi. Et ce que j'ai montré surtout dans ma partie théorique et littéraire, c'est l'importance des émotions. Je suis parce que je suis ému et parce que tu le sais. C'est ça qui est important.
D'où le terme de compassion, la capacité de sentir avec l'autre.
La compassion est venue, je dirais, pour parfaire cette théorisation qui était déjà dans Biologie des passions, de ce partage des émotions qui fait que l'on est au monde, et que l'on est au monde dans une instance pathétique. Et là, on retrouve pratiquement une position heideggerienne qui fait que l'accès à l'être, c'est la connaissance de ma mort. Et la connaissance de ma mort me vient très très vite dès que j'acquiers la notion du temps, du temps fini, la finitude du temps, qui est un des derniers progrès dont dispose le cerveau humain, parce qu'il y a suffisamment de neurones pour mesurer le temps avant et après, parce qu'il y a suffisamment de systèmes de mémoire.
Ce que l'animal ne saurait pas faire.
Ce que l'animal probablement ne sait pas faire. Et ce qui fait que j'enterre mes morts, c'est-à-dire que je crois aussi à la présence de l'autre et du grand autre, que je crois que je suis parce que les autres sont là, et ce qui m'amène à finir dans une sorte de discours prêchi-prêcha, où je prône la communion des saints, qui me fait passer pour un curé, un suppôt des curés, mais qui veut dire tout simplement que nous n'existons que par l'autre, et que c'est à travers les autres, à travers la communion des autres, qu'on peut s'en tirer face à ce néant désespéré qui est notre, ce à quoi nous sommes quand même irrémédiablement voués.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, la compassion vous amène quelque part à la communion, ou en tout cas la découverte, l'analyse objective du cerveau dans son fonctionnement vous amène à la découverte de l'intersubjectivité.
Ah oui, bah c'est clair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je retrouve un peu mes camarades d'enfance, les psychanalystes, qui, pour quelques-uns d'entre eux, ont gardé cette notion d'importance du sujet. Je suis un sujet dans un monde dangereux, dans un monde hostile, mais dans un monde qui contient des objets aimables, au premier rang desquels se trouve l'autre. Aimable, mais aussi détestable, c'est-à-dire à l'égard de qui je suis capable et d'amour, et de violence, et de haine.
Et comment expliquer cette ambivalence, ce désir qui à la fois peut se muer en aversion ?
Je n'ai pas d'explication, j'ai juste cette observation que seul l'homme est capable de haine, mais aussi capable d'amour. Mais bon, les animaux n'ont pas de haine, ils ont simplement des comportements agressifs, des comportements de prédateurs. Et nous sommes toujours un prédateur. Mais comment on arrive à retourner ce comportement de prédateur ? Ce comportement de... Cette sensation, cette impression, cet éprouvé de manque. Comment on peut le rendre permanent en le transformant en envie, invidia, c'est-à-dire en rancœur, en ce que Nietzsche appelle le ressentiment. Nietzsche qui est souvent un immense philosophe qui a montré l'importance du ressentiment comme moteur de la psyché humaine et de la psyché humaine. Ce ressentiment, il est au cœur de l'homme parce que justement, l'homme a d'emblée cette capacité à transcender ce besoin pour en faire soit un besoin d'amour, soit une haine de l'autre, un ressentiment vis-à-vis de l'autre. Alors, où se fait l'articulation ? Comment se fait la bascule ? Est-ce qu'il reste toujours de la haine et de l'envie chez les sujets les plus bons, les meilleurs ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à tout, je dois vous dire. Mais si je crois que la vie, on peut réfléchir sur elle et sur son sens, qui est quand même l'objet de tout exercice philosophique, c'est dans cette direction qu'il faut fouiller et que je consacrerai mes dernières années.
Aristote définissait l'homme comme un animal raisonnable. Est-ce que l'un des intérêts de vos travaux n'est pas justement, tout en mettant en avant bien évidemment notre inscription dans l'ordre biologique, avec toutes les dépendances que cela implique, de montrer aussi que l'homme a cette part de liberté qui s'exprime dans la découverte de l'autre et cette capacité à compatir à ce que ressent l'autre ?
Oui, ben d'ailleurs, ça existe aussi chez Aristote, qui est un grand réservoir de pensées sublimes. Mais je serais plus proche d'Épicure que d'Aristote, malgré tout. Non, je crois que l'homme est la plus passionnée des bêtes, ça c'est clair. C'est peut-être la plus raisonnable, mais je crois que la raison, l'exercice de la raison ne se fait que sur un fond de passion, un fond d'éprouvé de son corps, et que le grand sujet de cet éprouvé, finalement, c'est ce à quoi cet éprouvé est destiné, c'est à l'autre, c'est-à-dire à soi-même, en fin de compte, à sa propre conscience. Donc ça passe toujours par là.
Comment rejoindre l'autre me permet de me rejoindre moi-même.
Oui, mais ça, si vous voulez, il n'y a pas de pensée qui soit de pensée neutre, qui soit inaffective, qui soit rien, sauf dans certains syndromes pathologiques, comme le syndrome de Cotard, des choses comme ça, qui sont pratiquement des négations de ce qu'il y a d'humain en vous, mais qui sont des renoncements pathologiques liés à l'impossibilité qu'ont certains êtres de vivre, et qui vont quelquefois trouver, ça trouve ses racines d'ailleurs au niveau de la plus triviale biologie. Quand on voit ce qu'un désordre d'un neurotransmetteur peut transformer un individu en cette espèce de zombie, hein. Parce qu'on leur a donné des neuroleptiques, on le transforme en zombie, qui n'a même plus la notion qu'il est présent.
Le sentiment d'identité ou des choses comme ça.
Nous pouvons être ce tout d'une complexité infinie et en même temps réduire notre être sous le poids d'une seule molécule. Une seule molécule nous manque et tout disparaît. Et pourtant, nous sommes tellement plus qu'une molécule.
Jean-Didier Vincent, je vous remercie. Et nous aurons l'occasion bien évidemment de poursuivre cet échange ultérieurement, bien évidemment en approfondissant vos œuvres. Je recommande tout particulièrement votre dernier ouvrage, Le cœur des autres, une biologie de la compassion, paru chez Plon.
Il existe un livre de poche.
Un grand merci Jean-Didier Vincent.